Mon ambition ce matin, ce n'est pas de vous apporter quelque chose de nouveau, car bien des choses ont été dites et bien dites sur ce sujet. Mon ambition, si on peut parler d'une ambition, c'est que peut-être eh bien, nous revenions à des choses essentielles. Que nous apprenions peut-être à retrouver les anciens sentiers. On se rend compte aujourd'hui que dans, parfois, notre système d'église, nous voulons innover, et peut-être dans une intention eh bien, d'attirer du monde, on innove, on va sur des chemins inexplorés jusqu'à aujourd'hui. Mais il me semble que les meilleurs chemins sont les chemins de Dieu. Et il me semble que les meilleurs sentiers sont les sentiers de Dieu. Et que nous n'avons rien à inventer si ce n'est peut-être eh bien, de revenir à ce que dit l'Écriture. L'Écriture seule, alléluia, était une devise de la Réforme. L'Écriture seule. Et l'Écriture est suffisante, le croyez-vous? Il faut cependant associer à l'Écriture la vie de l'Esprit. Amen. Et j'ai vraiment à cœur, dans les temps dans lesquels nous sommes, qu'il y ait un renouveau spirituel au sein des églises. Un renouveau spirituel d'abord au sein de mon église. Et quand je parle de renouveau spirituel, je suis en train de parler d'un souffle du Saint-Esprit. Alléluia. Et je crois que c'est ce qui fera toute la différence dans nos réunions. Je le disais hier à la jeunesse, et je pèse mes mots, il ne faut pas confondre ambiance et atmosphère spirituelle. Et vous verrez que dans ce que nous allons partager ce matin, l'ambiance peut venir des hommes, l'atmosphère vient de Dieu et l'atmosphère spirituelle vient du Saint-Esprit. Le croyez-vous? En tout cas, j'en suis convaincu. Ézéchiel 37, nous allons lire les 10 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient comme complètement secs, dit l'Écriture. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, écoutez bien, la parole de l'Éternel. Pas écouter des idées, des pensées, mais écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse, amen. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, et nous allons refaire la lecture dans quelques instants du verset 7, le titre de mon message, plus que du bruit, un mouvement, plus que du bruit, un mouvement. Et regardez bien au verset 7 ce qu'il était dit, ce qu'il est dit. Et comme je prophétisais, regardez bien, l'ordre des choses, parfois nous avons une lecture, je dirais pas superficielle, mais peut-être pas assez concentrée pour réaliser les choses. Et je dis bien souvent, lorsqu'on étudie la Bible, je ne dis pas lorsqu'on la lit simplement, mais il me semble que tout enfant de Dieu appelé à être un disciple de Jésus ne doit pas simplement se contenter de lire la Bible, mais doit méditer, voire étudier l'Écriture. Et si vous regardez le texte avec attention, vous allez remarquer quelque chose qui n'est pas dans la logique humaine. Savez-vous que Dieu n'agit pas selon notre logique à nous? C'est pour ça que les incroyants ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. Il reste sur le terrain du raisonnement, il reste sur le terrain de la logique, et ils ne vont pas sur le terrain de la révélation. Nous avons besoin de connaître la révélation de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Regardez bien, je vais m'expliquer dans quelques instants en détail. Voici ce que nous lisons au verset 7. « Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, je lis pas la suite. Je me dis, quel spectacle étonnant quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà que le prophète se trouve devant un ossuaire, tout est mélangé, le tibia est à côté de la clavicule, et puis les os sont mélangés. Si nous, les hommes, nous avions dû remettre en ordre tout cela, même en connaissant bien le squelette humain, il me semble que nous aurions fait quelques erreurs, qu'en pensez-vous? C'est clair. Et même si nous avions mis le bon tibia au bon endroit, nous aurions pris le tibia d'un autre pour le mettre à un autre. Imaginez que ma femme ait mon tibia. Elle fait 1m50 quand elle est déployée, 55 quand elle est déployée, et moi je suis un peu plus grand. Comprenez bien que là, il y aurait une anomalie. C'est extraordinaire parce que voilà que Dieu va agir et puis tout va se mettre en place. Quel spectacle glorieux, mes bien-aimés! Mais ce que je veux vous faire remarquer, et je vais en arriver au principe spirituel dans quelques instants, c'est que d'abord il y a eu un bruit, et après il y a eu un mouvement. Comprenez avec moi que la logique aurait voulu que, parce qu'il y a le mouvement de ces eaux, suivez-moi bien, cela donne un bruit. Est-ce que vous comprenez? Parce que les eaux sont en mouvement, parce que les squelettes sont en train de se reformer, eh bien, cela crée un bruit d'os, si je veux le dire ainsi, si je peux le dire ainsi. Mais l'Écriture ne dit pas que le bruit a été la conséquence du mouvement. Suivez-moi bien, l'Écriture dit qu'il y a d'abord eu un bruit. Et ce bruit a débouché sur un mouvement. Ce n'est pas rien que de dire cela. Peut-être ça peut passer comme inaperçu, je le disais il y a quelques instants, mais en étudiant l'Écriture, on a besoin de comprendre ces choses. Vous savez, je voudrais dire ce matin que la vie n'est pas dans le bruit, la vie est dans le mouvement. La vie est dans le mouvement et surtout la vie est dans le mouvement de l'esprit. Et Dieu est un Dieu de mouvement, ce n'est pas un Dieu de bruit, c'est un Dieu de mouvement. Si j'avais vraiment plus de temps, je pourrais vous rappeler ce texte que je ne vais pas lire, mais je vous le rappelle, un roi 19 où l'Éternel, il est dit que l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, il y a un murmure doux et léger. C'est impressionnant, parce qu'il n'est pas dit simplement un murmure, mais le murmure est qualifié. Déjà, un murmure, c'est tout doux. Et le murmure est doux et léger. Et Dieu n'était pas dans le feu, Dieu était dans le murmure doux et léger. Il y a de nombreuses fois dans l'Écriture cette pensée que Dieu est en mouvement, et d'ailleurs, Jésus était toujours en mouvement. Vous savez aussi que le Seigneur nous invite, nous en tant que chrétiens, à être en mouvement. Combien de fois nous avons ces textes « Allez, allons !» Et vous savez que la grande commission ou la grande mission que Jésus a laissée à son Église est celle-ci « Allez, allez !» et faites de toutes les nations des disciples. C'est un appel au mouvement. C'est un appel à l'action, vous êtes d'accord avec moi ? Jésus était toujours en mouvement. Vous le pensiez ici, en train de se reposer, de dormir encore, et profitant d'une grasse matinée pour se renouveler dans ses forces, vous le pensiez couché, ses disciples le cherchaient. Il était déjà en mouvement dans la présence de Dieu. Pas statique. Et que dire de ce texte extraordinaire? Que dire lorsque dans Marc chapitre 14, verset 35, est-ce qu'on peut lire ce texte? Parce que c'est un texte extraordinaire. Même devant la croix, mes bien-aimés, même devant la croix, le temps le plus terrible de sa vie sur cette terre. Jésus n'est pas statique, encore moins en recul. Je ne sais pas si on l'a toujours réalisé. Mais dans Marc, chapitre 14, verset 35, il est dit, « Puis ayant fait, regardez bien, quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, s'il était possible, que cette heure s'éloigne de moi. » Je le dis sincèrement, si c'est moi qui avais été à la place de Jésus, j'aurais au mieux, mais je pense que jamais j'aurais pu avoir cette attitude, au mieux je serais resté statique, mais je pense que même j'aurais fait un pas de recul devant la croix. Je n'aurais pas accepté, moi, de donner ma vie pour des pécheurs. Mais quand je lis l'Écriture, vous l'avez lu avec moi, lui, notre Seigneur, il n'est ni statique, encore moins en recul, mais il est dans un pas en avant. Il s'offre, il va face à la croix. Que Dieu soit béni, qu'il ait fait ça. Combien de fois dans nos vies, nous sommes en recul dans notre vie spirituelle. Nous avons du mal à nous mettre en avant. Oui, c'est vrai, le temps d'un culte comme celui-ci ce matin, nous revenons au sérieux des choses, mais avouons-le, parfois dans la semaine, nous sommes plus en recul que dans l'offrande de notre vie. Nous avons tant de choses à apprendre de notre Seigneur Jésus. C'est lui le modèle, vrai ou pas? Et ce qui m'émerveille, c'est que face à la croix, il est en mouvement. Et regardez bien, dans ce jardin de Gethsémané, dans cette nuit de Gethsémané, il est dans le silence, il ne fait pas de bruit, mais il est en mouvement. Que Dieu nous aide à ne pas être que dans le bruit, mais être dans le mouvement. Je voudrais ouvrir mon cœur, je me sens la liberté de le faire. Je suis fatigué du bruit qui ne débouche pas sur un mouvement. Amen. Du bruit, il y en a. Oserais-je dire des décibels, il y en a. Et parfois, il y a du bruit et honnêtement, sans un esprit de jugement, mais on regarde après tout ce bruit, où sont les mouvements? Où sont les actes? Nous pouvons essayer de donner l'illusion de la vie par du bruit, mais je répète volontiers ce matin, la vie n'est pas dans le bruit, la vie est dans le mouvement. Vous qui avez des nourrissons, des petits, qui passez des nuits particulières, le bébé est dans son lit, il fait du bruit, mais il n'est pas en mouvement. Pourtant, il fait du bruit. Il me semble que parfois, dans nos églises, il y a beaucoup de bruit. Mais on cherche le mouvement. On cherche le souffle du Saint-Esprit. Revenons peut-être à plus de sobriété. Revenons peut-être à plus, je dirais, pas de sentiment, mais de chercher la présence de Dieu. Mes amis, je voudrais vous rendre ce témoignage de l'intervention de Dieu dans une réunion de prière. Nous étions sur Issoire, près de Clermont-Ferrand, nous avions la charge de cette église. C'était une réunion un mardi soir, et dans cette réunion du mardi soir, il n'y avait pas, bien sûr, eh bien, l'auditoire de dimanche matin, il n'y avait pas les musiciens du dimanche matin, et on a vécu quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pas vécu depuis, mais qui a marqué ma vie. Saint-Esprit est venu sur nous, sur l'Assemblée, et il y a eu un silence extraordinaire de Dieu, un silence de Dieu. Vous savez pas ces silences lourds, pénibles, où parfois il faut prier et puis personne ne prie, alors non, c'était un silence de Dieu. Et j'ose dire que dans cette soirée-là, même la plus bavarde, ou le plus bavard, pour ne pas avoir de problème avec les sœurs, s'est tu. Ça relève du miracle. Mais une présence de Dieu, un silence de Dieu. Et puis je me permets de vous dire que dans ce silence divin, Dieu a agi dans les cœurs. Ce n'est pas venu de l'estrade, ce n'est pas venu de l'artifice humain, c'est venu du ciel. Je prie pour que nous vivions cela. Je prie pour que vraiment il y ait là un bruit qui débouche sur un mouvement. Je l'ai fait remarquer en introduction, donc j'y reviendrai pas. Le bruit n'est pas venu de la conséquence du mouvement des eaux, mais le bruit a d'abord, eh bien, est d'abord venu et a initié ce mouvement. Ce qui me permet de venir au principe spirituel dans Actes chapitre 2. Voulez-vous lire, ouvrir votre Bible dans Actes? Je pense qu'on est dans une église pentecôtiste et le culte de ce matin m'a prouvé que nous étions dans une église pentecôtiste. Non pas à cause du bruit, mais à cause des dons spirituels. Alléluia! Des dons inspirés de Dieu, pour parler à l'Église et édifier l'Église. Dans Actes chapitre 2, vous connaissez ce texte par cœur, mais une fois de plus, le connaissant, avons-nous vraiment réalisé tout ce que ce texte nous apportait? Il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Regardez bien l'ordre des choses. Tout à coup, il vient du ciel, on retrouve le mot, un bruit. Il n'est pas venu de la terre, le bruit. Il n'est pas venu d'un super groupe de louanges ou de musiciens. Ouais ou pas? Le bruit est venu du ciel. Tout à coup, donc, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On poursuit la lecture jusqu'au verset 6. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, un autre, au bruit. On retrouve le mot. Au bruit. Qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Regardez bien. Au bruit qui eut lieu, il est dit que la multitude accourut. Regardez bien. Après le bruit est venu le mouvement. Nous pouvons dire avec vérité que ceux qui sont venus à ce bruit-là étaient comme un ossuaire. Ils étaient morts spirituellement. Vrai ou pas? Mais parce qu'il y a eu un bruit, écoutez bien mon raisonnement, parce qu'il y a eu d'abord un bruit dans le ciel, ensuite il y a eu un bruit sur la terre, je vais en parler dans quelques instants, cela a amené un mouvement. Le mouvement n'est pas venu parce qu'il n'y a eu qu'un bruit sur la terre. Mais le mouvement est venu parce qu'il y a eu d'abord un bruit dans le ciel. Il est question ici de deux fois du mot « bruit » et il faut dire ici qu'il y a deux mots bien distincts dans l'original pour parler du bruit. Dans le premier mot, c'est le mot « écho », « écos » qui a donné le mot « écho », l'écosse. Et puis dans la deuxième fois, lorsqu'il est question du bruit, ce n'est plus le mot « écho », c'est le mot « phonos » qui a donné « téléphone », par exemple. Nous savons que le premier bruit, écos, est venu du ciel. Ce bruit est la source de ce bruit et Dieu lui-même. Alléluia. Ensuite, il y a un bruit sur la terre. Quel est ce bruit qu'il y a eu sur la terre? Eh bien, 120 personnes qui se mettent à parler en langue, ça fait du bruit. Est-ce que vous comprenez avec moi que ce bruit qui est sur la terre a sa source dans le ciel? Et c'est ceci qui a créé un mouvement des foules. Et je voudrais dire avec beaucoup de précaution ce matin, mais aussi beaucoup de vérité, que s'il y a eu d'abord un mouvement de foule, et c'est bien souvent ce que nous constatons, et parfois, pardon de le dire aussi directement que cela, c'est ce que nous cherchons, le mouvement des foules. Mes amis, pas de publicité, pas d'annonce dans les médias, mais le bruit que produit le Saint-Esprit attire les foules. Mais écoutez-moi bien, attirer les foules, ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui nous est dit d'abord, et ce qu'il nous faut retenir ce matin, ce n'est pas qu'une foule a été attirée, c'est que les cœurs ont été attirés. Est-ce que vous comprenez? Et j'ose dire, et je le dis dans mon assemblée, attirer des foules à un culte, ce n'est pas si difficile que cela. Si vous voulez simplement produire un bruit, pour faire du bruit, attirer les gens, eh bien mes amis, prenez des gens compétents avec un charisme humain, j'ose le dire, créer une ambiance artificielle et vous pouvez attirer du monde. Je lisais dernièrement un homme de Dieu qui disait que nous ne sommes pas appelés à créer un auditoire. Nous sommes appelés, nous prédicateurs de l'évangile et pasteurs, à susciter des disciples. Ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Et remplir une salle un dimanche matin, j'ose le dire, ce n'est pas si difficile que cela. Mais que des cœurs soient touchés, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. On peut s'inquiéter peut-être de ces foules qui sont attirées, mais les cœurs ne sont pas touchés. Le texte dit qu'il y a eu un mouvement de foule, mais quand Pierre va prêcher, et si vous étudiez la prédication de Pierre, je pense qu'à un moment, aujourd'hui, certains lui auraient dit « Tu peux couper, s'il te plaît ?» Parce que tu parles de péché. Tu parles et tu accuses. Tu nous accuses ! Quel pasteur ! Tu nous accuses ! Parce que quand même, quand Pierre va s'adresser à ces gens qui sont venus au bruit qu'ils ont entendu, mais rappelez-vous, le bruit est d'abord venu du ciel, quand Pierre va prêcher, il va leur dire, entre autres, « Vous l'avez fait mourir !» Peut-être que certains diraient, un type de prédicateur comme ça, atténue un peu le message, enrobe un peu la chose, quoi. Dis-le sans le dire. Mais Pierre l'a dit. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces gens qui ont entendu ce message, qui ne faisaient aucune concession avec le péché, mes amis, il ne faut pas faire de concession avec le péché. Il nous faut prier. Que dans nos églises, nous ayons des prédicateurs de l'Évangile qui ne font pas de concession avec le péché, qui aiment les pécheurs, mais qui ne font pas de concession avec le péché, qui osent dire encore aujourd'hui la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est que nous sommes nés dans le péché et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, ce que j'aime dans ce texte, c'est que Pierre, visiblement, a même pas vraiment le temps de finir son message, puisqu'il est comme interrompu par un mouvement de cœur. Oui, la foule est là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le cœur est en mouvement. Et que disent-ils ? Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés ? C'est pas la foule simplement qui est en mouvement, c'est le cœur des gens qui est en mouvement. Et je crois que dans le texte original, j'ai étudié cela en son temps, mais je crois que dans le texte original, il est même dit qu'ils ont eu comme une conjonction du cœur. Ils ont senti que leur cœur sortait d'eux-mêmes. Que Dieu nous aide à ce que dans nos églises, lorsque nous prêchons l'Évangile, les gens ne nous disent pas en sortant du culte, je vais faire attention à ce que je dis et je vais m'expliquer parce que ça m'a mal compris. C'est mal compris, mais je vais essayer d'être clair. Parfois, il y a des gens qui viennent au milieu de nous, ils sortent de nos cultes, je parle des inconvertis, des incroyants, des gens qui vivent dans le péché. Ils viennent au milieu de nous et ils sortent, ils nous disent « C'était bien, j'ai bien aimé, j'ai trouvé bien, voilà, on était dans une bonne ambiance. » Et des fois, je me dis « Mais moi, je ne voudrais pas qu'ils soient si à l'aise au milieu de nous. » Est-ce que vous me comprenez ? Ah ouais, c'était sympathique, vraiment. Bon, on fait en sorte qu'on soit sympathique quand même, hein ? Comprenez ? Mais ça m'interpelle que des pécheurs sortant du milieu de nous, sans s'être repentis, sans avoir été convaincus de péché dans leur cœur, ressortent en disant « J'étais bien au milieu de vous. Comment se fait-il qu'un pécheur soit bien dans la présence de Dieu ? Il devrait être convaincu de péché. » Amen. Est-ce que vous me comprenez ? Donc quand ils me disent « C'était bien, j'étais bien au milieu de nous », ça ne me rassure pas cette affaire-là. Et qu'ils me disent « Je suis venu au milieu de vous, j'étais mal à l'aise, j'étais vraiment pas bien, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, étant convaincu de péché, je me suis converti et maintenant je vais bien », ça me rassure. Alléluia. C'est pour ça que mes bien-aimés, ne cherchons pas une ambiance. L'ambiance ne touche pas les cœurs. Cherchons l'atmosphère spirituelle. Quel réveil désirons-nous ? C'est une vraie question. Et même j'ose poser la question, quelle église ? Quelle église voulons-nous ? Et j'ose aller plus loin, même si je n'ai pas l'âge canonique de Gérard Gou. Quelle église allons-nous laisser à nos jeunes, à nos ados et à nos enfants ? Écoutez bien. Dans quelle ambiance, je pèse mes mots, nos ados, nos jeunes sont en train de grandir. Je prie vraiment, dans les temps dans lesquels nous sommes, séduits peut-être, parfois, par la facilité. Car l'onction de Dieu, vous savez, vous ne la trouvez pas dans un livre, vous la trouvez à genoux devant le Seigneur. Je prie vraiment pour que nos ados et nos enfants ne soient pas simplement touchés par une ambiance, certainement même pas touchés par une ambiance, mais soient vraiment touchés par le Saint-Esprit. Et mes amis, ça va durer.
Quel réveil voulons-nous ? Moi, je vais vous dire le réveil que je désire. Un réveil des cœurs et des consciences. Amen. Un réveil des cœurs et des consciences. Notre Père, notre prière, pardon, c'est que les cœurs et les consciences soient touchés au point qu'il y ait un désir de changement. Et je vais terminer avec deux choses. Comme je le disais hier soir à la réunion de jeunesse, quand je dis je vais terminer, c'est juste le début de la fin. Mais j'ai encore un peu de temps. C'est bon. La première chose, me semble-t-il, qu'il faut dire ce matin, c'est que notre monde, écoutez-moi bien, notre monde, notre société a besoin d'un souffle de Dieu. Vous êtes conscient de ça ? Si vous regardez les actualités, si vous vivez dans ce monde et on vit tous dans ce monde, nous sommes horrifiés parce que nous voyons ce que nous entendons et dans quel bain nous vivons. Nous avons besoin d'un souffle de Dieu sur notre monde. Et là, je vais vous faire lire encore quelque chose qui n'est pas dans la logique humaine. Mais je répète, Dieu n'agit pas selon nos principes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les principes de Dieu sont bien meilleurs que les nôtres ? Et il y a quelque chose qu'on va lire dans Genèse chapitre 8 qui est tout à fait illogique. Mais tout en étant illogique, c'est la bonne façon de faire. Genèse chapitre 8. C'est l'histoire de Noé. On va lire juste le verset premier parce que c'est étonnant ce verset. Je l'ai lu comme vous des dizaines de fois, mais un jour je me suis arrêté et j'ai dit, mais ça ne marche pas cette affaire normalement. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, et pour les jeunes qui étaient là hier soir, même de l'escargot. Parce que je ne sais pas si vous y avez pensé, mais l'escargot, il est entré dans l'arche quand même. Hein ? Ça a pris du temps, mais il est entré. Vous n'y avez jamais pensé à l'escargot, hein ? Si. Persévérant, l'escargot. Je disais hier soir, lorsqu'il a vu les antilopes le dépasser, il a dit, est-ce que l'antilope met 4 minutes à rentrer dans l'arche ? Moi, il va me falloir... Mais il y va, il en bave. Hein ? Mais il y va, et il entre. Alléluia. Le bien-aimé, des fois on en bave, hein. Mais ce qui compte, c'est d'avancer. On va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur la mer. Lorsque nous étions missionnaires à Saint-Pierre et Miquelon, nous étions entourés de la mer. C'est un contexte particulier, où que vous portiez les regards, vous aviez la mer autour de vous. On a un sentiment un peu d'être en prison, d'être emprisonné sur cette île. Mais quand le vent se levait à Saint-Pierre et Miquelon, la mer ne s'apaisait pas. Est-ce que vous me suivez ? La mer se déchaînait. Et si vous lisez le texte, peut-être sans en prendre conscience, mais... Permettez-moi ce matin, avec la grâce de Dieu, de vous en faire prendre conscience. Il est dit que Dieu a fait passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. C'est contre nature. Normalement, le vent n'apaise pas, mais génère plus de tempêtes. Or, il me semble que la méthode de Dieu, c'est de faire souffler son vent pour que les eaux puisse être apaisé et notre monde et notre société est secoué de tous côtés. Le croyez-vous ? Alors les hommes essayent, dans leur folie, j'ose le dire, dans leur folie, parce que tout ce que les hommes veulent faire pour apaiser les tensions de la société n'arriveront à rien, ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Alors les hommes essayent, mais le monde est de plus en plus secoué. Les cellules familiales sont secouées. Je suis horrifié de voir, certainement pas à Sainte-Anne, certainement pas à Toulouse, c'est un phénomène seulement à Annemasse, mais je suis horrifié de voir des enfants de 8 ans et de 9 ans tenir tête aux parents. Ça n'arrive pas ici, hein ? Malheureusement. 8 ans, ils remettent en question l'autorité de papa et de maman. Oh ! Où t'as appris ça ? Écoutez-moi bien. Ils sont baignés dans cette société de la rébellion, de la revendication, de l'insoumission. Tout à l'heure, Gérard disait, vraiment c'est aussi ce que j'enseigne à l'église. Parents, occupez-vous de vos enfants, parce que si vous ne vous en occupez pas, laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et vous avez compris, il s'en occupe très mal. Occupez-vous de vos enfants. Je ne sais pas s'il y a un culte de famille dans vos maisons, mais il est urgent et grand temps de remettre en place le culte de famille. Il est urgent et grand temps de prendre peut-être une soirée de la semaine en disant on coupe le téléphone, on coupe la télé, on coupe Internet, on coupe tout, et on va passer du temps ensemble, les enfants. Venez, on va passer du temps ensemble. Je vais vous parler du merveilleux Jésus. Alléluia. Bien sûr, ne leur faites pas une étude de la généalogie de Jésus, mais parlez-leur de Jésus, parce que dans la semaine, ils ont entendu parler de bien autre chose. Des enfants viennent et nous disent, t'as vu mes cartes? J'ai des cartes Pokémon devant les parents. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais essayer de parler aux parents discrètement. Mais il me semble que les cartes Pokémon, quand même, ce n'est pas la meilleure éducation pour nos enfants. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une réalité aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que notre monde et notre société secouée a besoin de trouver de l'apaisement. Cela a l'air d'aller à l'encontre de la logique, mais le vent, normalement, qui devait ajouter au fracas des eaux, pourtant Dieu a tout arrêté, a tout apaisé par le vent. Et vous savez ce que notre monde a besoin? Le souffle du Saint-Esprit. Moi, je crois, sans être dans de l'irréalisme ou de l'utopie, je crois que le souffle qui peut sortir de ce lieu peut bénir nos rues et nos villes. Est-ce que vous le croyez? Je crois que le Saint-Esprit peut sortir de ce lieu. Lorsque le bruit qui viendra du ciel, comprenez le raisonnement, le bruit qui viendra du ciel créera un bruit de l'Esprit au milieu de vous, et ce bruit ira dans les rues et apaisera, alléluia, les tensions que les familles peuvent subir. Vous savez que le Seigneur lui-même l'a dit, qu'au temps de Noé, les temps de la fin seront marqués comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et lui fit tous périr. Dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut intervenir par son esprit. Alléluia. Et il me semble qu'aujourd'hui, une des prières essentielles de l'Église, c'est souffle, Saint-Esprit, souffle. Souffle de Dieu, viens, viens, viens au milieu de nous. Alléluia. Il n'y a rien de plus urgent que cela. Et puis, nos églises ont besoin d'un souffle de Dieu. Nos églises, c'est ma femme. Je lui ai prêté mon téléphone, j'aurais pas dû le faire, Seigneur. Restez avec moi 2 secondes. Nos églises, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On va terminer avec cette pensée. Nos églises ont besoin d'un souffle du Saint-Esprit. Il se peut que nous ayons subit bien des combats et bien des luttes. Il se peut que nous ayons besoin, nous aussi, d'une parole vivante de Dieu. Je prie vraiment, quand je dois apporter la parole de Dieu, que ma parole soit une parole vivante. Écoutez, la parole vivante, elle ne vient pas d'une qualification humaine, elle ne vient pas d'une qualité oratoire, car bien parler ne signifie pas qu'on parle de la part de Dieu. Je me souviens un jour avoir invité un frère de Vie et Lumière pour une réunion et je me suis repenti à cette réunion. Il y a des pasteurs qui se repentent aux réunions, vous savez. Parce que le frère a commencé à lire un texte de l'Écriture et bien sûr, comme il savait peu lire, je ne dis pas qu'il ne savait pas lire, il savait peu lire, sa lecture était hachée. C'était presque du mot à mot, c'était compliqué, et pour lire 2 versets, ça lui a pris beaucoup de difficultés. J'ai dit, Seigneur, où on va? Où on va? Et j'ai commencé à le juger. Puis il a posé la Bible et il a commencé à prêcher. Et là, j'étais sur la chaise et je disais, il n'a pas le sens oratoire, mais c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Méfiez-vous des beaux parleurs. Amen. Derrière les beaux parleurs, il faut regarder si c'est l'Esprit de Dieu qui parle et si c'est l'autorité de Dieu qui l'enseigne. Je me rends compte aujourd'hui que dans le monde évangélique, avec Internet et compagnie, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de beaux parleurs. Parle bien, mais il y a beaucoup de séduction. Et écoutez-moi bien, Pourquoi certains chrétiens sont séduits, j'ose le dire, je pars ce soir, enfin je pars mardi, mais voilà. J'ose le dire, pourquoi certaines personnes arrivent à séduire les chrétiens? Parce que les chrétiens ne connaissent pas leurs paroles. Vous savez, quand on connaît la vérité, vous savez comment ceux qui doivent détecter les faux billets, vous savez comment on les forme pour qu'ils détectent les faux billets? On ne leur apprend pas tous les faux billets qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a. On leur apprend ce qu'est un vrai billet. Est-ce que vous comprenez? Ils touchent le billet, ils regardent le billet, ils savent ce qu'est le vrai. Quand on leur présente quand on leur présente un faux billet, ils ne regardent pas, ils regardent le modèle. Et si ce n'est pas selon le modèle, c'est un faux. Et mes amis, il faut l'étudier, la Bible. Des fois, on a envie de dire des bêtises énormes avec un grand « Amen ». Et là, les chrétiens, « Amen ». Mais je viens de vous dire une bêtise, ce n'est pas possible. Dites pas « Amen » à tout. Sans être suspicieux de tout, hein, vous me comprenez. Mais vérifiez à la source. Il se peut que nous ayons besoin, nous aussi, mes bien-aimés, d'un souffle de Dieu. Je trouve que l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Je trouve que l'Église d'aujourd'hui, elle est bien sèche. Ne croyez-vous pas avec moi qu'elle a besoin d'un rafraîchissement? Quand dans le texte, il est dit que les eaux étaient secs, le texte original, ça veut dire que, en fait, l'idée, ils étaient tellement secs. Vous savez que les eaux secs, c'est fragile. Que si on y mettait la main de l'homme, juste en mettant la main, notre main sur ces eaux qui étaient secs, juste en les touchant, les eaux tombaient en miettes, s'effritaient. Il se peut ce matin que quelqu'un ait conscience qu'il est complètement sec, qu'il aura l'honnêteté de dire « Oui, je viens à l'église, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime mon église, j'aime... » Ce n'est pas un problème, ça c'est vrai, mais j'ai réfléchi à ça. Comment se fait-il que sur ce champ, il y ait cet ossuaire? Ce n'est pas écrit, mais on peut penser que c'est le résultat d'un champ de bataille. Il y a une bataille, il y a une guerre là. Et ces os sont le résultat d'une guerre, et c'est clair, ils ont été vaincus, puisqu'il n'y a que les os. Mais Dieu est le Dieu de la victoire. Et peut-être que quelqu'un ce matin au milieu de nous, sur le plan spirituel, il n'a plus la foi, faut le dire. Il n'est plus dans l'énergie de l'esprit. Il n'arrive plus à faire face aux défis de ce monde. Sa vie est complètement sèche. Et peut-être quelqu'un se dit, si on me touche, tout s'écroule. Mais ce matin, ce n'est pas nous qui allons vous toucher, c'est le Saint-Esprit qui va vous toucher. Ce matin, n'attendez pas le secours dans un homme, quel qu'il soit, mais attendez le secours de Dieu. Ce matin, attendez-vous au souffle du Saint-Esprit, alléluia, dès ce soir. Pourquoi ne pas prendre le temps, au lieu de vous laisser gagner par une habitude qui est là du dimanche soir, pourquoi ne prendriez-vous pas le temps de prendre quelques instants avec le Seigneur? Vous asseoir paisiblement dans un lieu calme, chambre, salon, peu importe l'endroit, vous placer devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, j'ai terriblement besoin de toi. Envoie un souffle nouveau sur ma vie. » Que Dieu nous aide. Et puis je termine vraiment, vous avez remarqué que ce qui a été l'instrument du miracle, c'est la parole de Dieu. C'est un livre surnaturel que ce livre-là. Alléluia. Amen. Sous l'onction du Saint-Esprit, il y a des miracles extraordinaires qui se produisent avec la parole de Dieu. Revenons à la parole, mes amis. Revenons, j'ose le dire, revenons à la parole parce que peut-être on s'en est écarté. Revenons à la simplicité de l'Écriture. Elle est simple, mais elle est puissante. Que Dieu soit béni. On rend grâce à Dieu, on le remercie. Notre Dieu, notre Père, nous sommes ce que nous sommes. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Devant toi, tout est à nu. On ne peut rien te cacher, Seigneur. Il y a des réalités au fond de nous que peut-être nous ne dévoilons pas en public, mais toi, tu sais les choses. Je veux te prier, Seigneur, pour que de cette assemblée sorte un bruit. Alléluia. Le bruit du Saint-Esprit. Un feu de Dieu qui va aller dans cette ville, communiquer la vie là où il y a la mort. Nous savons qu'il n'y a pas d'espérance dans les hommes, mais nous savons que nous pouvons tous tout espérer de toi. Je veux prier aussi, Seigneur, afin que tu bénisses ceux qui sont secs ce matin, ceux que peut-être, eh bien, ont connu des combats, des luttes, des tensions, des pressions, ils ont connu leur champ de bataille, et peut-être ce matin, ils sont dans une position de vaincu. Mais toi, tu es le grand vainqueur. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, et même devant un champ d'os, tu as donné la vie. Et ce matin, je crois que tu es capable de donner la vie. Bénis cette assemblée au nom de Jésus. Bénis-la encore et encore et encore. Bénis le couple pastoral, Gérard, Isabelle et les deux frères qui sont là. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Et que ta bonne main continue d'être avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.